Michel Hirsch, avocate en droit pénal, nous parle ce matin d'un procès emblématique sur la qualification du viol en tant qu'arme de guerre, celui de grands criminels de guerre inculpés dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est sa pierre à l'édifice du combat pour l'évolution du droit des femmes. Eh bien, Michel Hirsch a pu être rencontré par Lucie Gilson.
Bonjour Michel Hirsch.
Bonjour.
Vous êtes avocate et spécialiste en droit pénal. Alors, à la veille de la Journée internationale des droits de la femme qui se tiendra donc samedi 8 mars, vous allez participer à un colloque à l'Assemblée nationale à Paris sur les viols comme crimes de guerre avec la participation notamment de l'ancienne députée de la Knesset, Emily Moati, accompagnée de témoins. Vous avez été invitée à une troisième table ronde intitulée « Et à l'international point d'interrogation ». Alors, vous avez beaucoup défendu des cas de viol utilisés comme arme de guerre dans le cadre du génocide de Rwanda, par exemple. Et
on défendait des victimes.
Des victimes, oui, bien sûr. Excusez-moi, vous avez raison de me reprendre là-dessus. Et notamment en 2023, au procès de Séraphin Touahéra et Pierre Bazabosé, reconnus coupables de crimes de génocide et de crimes de guerre. Alors, à votre avis, ces condamnations, est-ce qu'elles ont fait avancer les mentalités, la justice, quelle a été la place de ces condamnations dans le cours de l'histoire finalement par rapport à la qualification de viol en tant que crime de guerre?
Alors je ne sais pas, parce que en réalité, ces procès ont eu, ou ce procès en particulier, qui était vraiment extraordinaire, voire historique, a eu très peu de répercussions en Belgique et il a été très peu médiatisé, du moins par la presse belge. À tort, selon moi, parce que c'était vraiment un procès extraordinaire où un accusé, Touahéra, effectivement, a été poursuivi et condamné. Notamment pour viol de masse. C'est même plus que viol de masse, c'est viol dans le processus génocidaire. Donc c'est viol génocidaire. Et la cour d'assises, parce que cette affaire a été jugée par un jury populaire, a examiné pendant plus de 2 mois et a entendu pendant plus de 2 mois des témoins, des victimes, qui, les yeux dans les yeux par rapport à l'accusé, ont eu le courage de dire et de ce qu'elles avaient vécu et ce dont elles avaient été victimes. Et au niveau de l'histoire, il faut savoir que c'est un fait a été enregistré et filmé d'ailleurs, pour l'histoire justement. Ce procès en fait est le premier où un accusé a été poursuivi pour viol de masse en Belgique. Alors ça, quel est un procès qui est d'un enseignement vraiment profond sur, il faut savoir qu'au Rwanda durant le génocide, il y a eu près de 1 million de morts parmi les Tutsis, mais au niveau des viols, il y a eu probablement entre 300 000 et 500 000 viols de femmes. En réalité, les viols participaient au processus génocidaire lui-même. Dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda, ce sont les femmes qui ont été les principales survivantes. Et je pense qu'on peut penser ou qu'on peut dire qu'elles ont survécu parce qu'elles étaient violées et pas encore tuées. Le génocide a duré 3 mois et le mot d'ordre était violée d'abord, tuée ensuite. C'est la raison pour laquelle ce sont les femmes qui ont principalement survécu. Alors, au niveau de l'histoire et des différents procès qui ont eu lieu en Belgique, ces procès était vraiment extraordinaire au niveau du témoignage de ces femmes. Dont certaines ont témoigné 30 ans après les faits et ont témoigné pour la première fois des viols qu'elles avaient subis devant accusés Troyes-et-Roi, devant le jury populaire, devant la cour d'assises. Elles n'avaient jamais parlé avant. Et en réalité, ce qui est vraiment étonnant, pour moi en tout cas, moi j'ai été l'avocat des victimes du génocide Tutsi depuis le premier procès. Je suis intervenue en 95. Le génocide était en 94. Eh bien, dans le premier procès, le mot viol n'a pas été évoqué une seule fois. Et je me rappelle que moi, quand j'ai fait mes premiers voyages au Rwanda pour rencontrer nos clients, rencontrer les survivants, voir sur place, et c'était pas tellement longtemps après le génocide, eh bien, j'ai rencontré des survivants, des survivantes, et aucune ne pas parler des viols, aucune. Et en réalité, par rapport au viol, c'était le silence. Comme c'est le silence, la plupart du temps, en droit commun. Si on parle de viol comme crime de guerre, voire comme viol génocidaire, eh bien, les femmes se taisaient. Nos hommes aussi, d'ailleurs. Personne ne nous a parlé des viols. Donc, le point de départ des viols, que ce soit en droit commun ou comme bien comme crime de guerre, c'est le silence, en réalité. Et je me rappelle que ça, c'est quelque chose qui m'est apparu bien après. Il a fallu un deuxième voyage au Rwanda pour que je prenne conscience de la réalité de ces viols qui étaient des viols vraiment systématiques. Ce qui m'est d'abord apparu, c'est qu'après un génocide, les témoins, les survivants parlaient, contrairement à ce que je croyais après la Shoah.
Oui, vous dites d'ailleurs que la première étape, c'est le silence et que il faut nommer l'innommable pour justement permettre d'enclencher un processus de guérison pour ces femmes qui ont été victimes de traumatismes.
Nous devons, comme avocat ou moi, c'était une position d'avocat. Si vous voulez appréhender une réalité, il faut d'abord l'avoir intégrée. Et cette réalité-là des viols, nous n'avons pu la faire émerger à travers le courage des femmes qui ont témoigné des viols qu'elles ont subis ou que leur famille a subi, les femmes de leur famille ont subi, que si on a conscience, que si on appréhende cette réalité. Et c'est ce qui a pu émerger à travers de nouveau le courage des femmes qui ont été capables de témoigner. Ce qui s'est passé dans le procès de Troyes-et-Roi, il y a eu des témoignages dans les procès précédents, mais c'est la première fois que des victimes directes des viols commis par l'accusé témoignaient de ce qu'elles avaient subi elles-mêmes. Et il a fallu 30 ans pour en arriver là. Des femmes qui avaient témoigné par écrit, pendant les procès-verbaux, qui avaient été auditionnées par les enquêteurs, n'avaient pas dit ce qu'elles ont été amenées à dire devant la cour. Donc, il y a un processus qui a mis du temps, que nous ne percevions pas, et qui met du temps à se révéler, et qui, grâce au courage des victimes, émerge. Donc, une réalité des viols systématique comme durant le génocide, comme arme de destruction de la population Tutsi, une attaque contre la féminité, contre, donc il y a une attaque qui a été menée spécifiquement contre les femmes.
Mm.
Et ce que le procès nous apporte aussi, bon, je crois que ce sont toutes des choses qu'il faudra creuser et examiner de plus près, c'est que ce n'est pas arrivé comme cela. C'est le fruit d'une propagande anti-femme qui précède le génocide.
Donc aujourd'hui, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé, de cette histoire, et les procès aident à ce genre de prise de conscience collective, j'imagine. Merci, Michèle Hirsch. Je rappelle que vous êtes avocate et spécialiste en droit pénal. À très bientôt.
À très bientôt. Merci à vous.